San Francisco. L'image sauta avant de se brouiller. Pendant quelques secondes, Jonathan resta stupéfait devant son écran, éprouvant malgré lui une sorte d'admiration pour le malfrat. Ce Danny Doyle, quel drôle de mec! Qu'était-il devenu depuis 2 ans et demi? À notre époque effrayante, la plupart des questions ne résistaient pas très longtemps à Internet, et cette fois encore, Google lui apporta une réponse quasi instantanée. Macabre découverte aux portes de Manchester. L'article datait du 10 juillet 2009, 1 ou 2 jours après l'enregistrement du film. Danny ne bluffait pas. Il se savait en danger mortel. Le journaliste expliquait que le cadavre du parrain de la pègre, Danny Dub Doyle, avait été retrouvé les mains et les pieds coupés et toutes ses dents arrachées à la pince. Le gang des Ukrainiens s'était durement vengé. Cette nouvelle découverte lui fit froid dans le dos. Jonathan revint au bureau de son ordinateur. Il ne lui restait qu'un dernier document à ouvrir. Un fichier JPEG, une photo. Il fit glisser le curseur sur son écran, cliqua sur l'image et son sang se glaça. Paris, avenue Victor Hugo. Georges Latulippe quitta le restaurant peu après 14h. Immédiatement, Madeleine sauta sur sa moto et lui colla au train pour ne pas le perdre de vue. Elle le suivit jusqu'à la rue Clément Marot, au cœur du Triangle d'Or. La Porsche stationna quelques secondes devant une agence immobilière de luxe. La jeune femme qui le rejoignit devant la voiture l'embrassa fougueusement, sans doute une collaboratrice de l'agence. Grande, blonde, jeune, jupe courte et charme slave. Bandante, mais suffisamment distinguée pour vendre des appartements à 3 ou 4 millions d'euros à une clientèle huppée. La voiture quitta le 8e pour rejoindre la rive gauche et le parking de l'école de médecine. Main dans la main, le couple longea la rue Saint-Sulpice, tourna rue Bonaparte avant de s'engouffrer sous le porche d'un immeuble de la rue de l'Abbaye. Madeleine poireauta une 20aine de minutes avant qu'une vieille dame ne rentre à son tour. Elle se précipita à sa suite pour vérifier les boîtes aux lettres. L'une d'entre elles était au nom de Latulippe. Décidément, Georges menait la grande vie. Belle voiture, jeune maîtresse, appartement à Saint-Germain-des-Prés. Pas mal pour un ancien vendeur de hot-dog. Leur récréation érotique fut de courte durée. Un petit quart d'heure plus tard, les deux amants étaient déjà dans la rue. D'un pas rapide, ils rejoignirent le parking, puis Georges raccompagna sa partenaire à son travail. Sans remarquer qu'il était suivi, il rallia le quartier des Ternes par l'avenue Wagram, tourna rue de la Neva et s'engagea dans l'imposante porte cochère d'un bel hôtel particulier blanc cassé. Lancée sur le trottoir, la moto de Madeleine pila devant la plaque dorée du bâtiment sur laquelle était gravée en lettres modernes « Fondation des Lilos ». La flic gara son engin non loin de la salle Playel et revint sur ses pas. Le temps neigeux du matin avait fait place au soleil, mais le froid était vif et de la buée s'échappait de la bouche de la jeune Anglaise. On était dans les beaux quartiers. Les commerces gourmands ne manquaient pas. Maison du chocolat, mariage frère. Attentive à ne pas perdre de vue l'entrée de l'immeuble, mais désireuse de se réchauffer, Madeleine s'installa à une table de la plus célèbre maison de thé de Paris. Le comptoir était entouré d'un mur d'étagères en chêne massif, décoré de dizaines de boîtes en fer, renfermant les crus les plus précieux. L'endroit sentait l'encens et le jasmin. La carte des thés était pléthorique. Un peu au hasard, Madeleine se laissa guider par la poésie des noms et opta pour une tasse de brume d'Himalaya accompagnée d'un sablé pur beurre. Comme un réflexe, elle sortit son ordinateur qu'elle connecta à un point Wi-Fi pour accéder à Internet. La recherche qu'elle lança sur la fondation des Lilos lui apprit que Frank des Lilos, le père de Francesca, avait créé cet organisme quelques années avant sa mort. Il avait pour vocation d'aider des élèves brillants, mais défavorisés, à poursuivre leurs études en attribuant des bourses. Cette association, l'une des plus prodigues du monde, avait son siège à New York, mais possédait une antenne parisienne dont l'administrateur était Georges Latulippe. Pensive, Madeleine but une gorgée de son infusion au goût de noisette et de muscat. L'étau se resserrait autour de la tulipe vers qui convergeaient toutes les pistes. Par quel miracle cet homme parti de rien était-il parvenu à obtenir à la fois les bonnes grâces du groupe qui avait viré Jonathan et celles de Francesca? Chacune de ces découvertes faisait monter son excitation d'un cran. Son enquête l'aspirait. À présent, elle ne pensait plus à ses bouquets, à ses décorations ou à son magasin. Elle ne pensait qu'à découvrir le secret de Georges la Tulipe, qui, elle en était certaine, était aussi le secret de la séparation de Francesca et Jonathan. 2h30 plus tard. Il faisait déjà nuit lorsque Georges sortit de l'immeuble de la Fondation des Lilots. Entre-temps, Madeleine avait eu le temps de goûter à plusieurs thés différents. Elle régla précipitamment une addition salée et regagna sa moto au moment où la Porsche rejoignit à toute allure le boulevard de Courcelles. Et merde ! Elle enfourcha sa Triomphe et mit les gaz, mais le temps qu'elle arrive place des Ternes, elle avait perdu de vue la Panamera. Ne panique pas. Selon toute logique, Georges devait retourner au restaurant pour le service du soir. Bingo ! Elle retrouva la berline au niveau du rond-point de l'Étoile. À nouveau, elle ressentit ce petit frisson d'excitation. De plus en plus, elle se prenait au jeu de son enquête. Il fallait qu'elle perce le secret de Georges, qu'elle fouille son appartement, qu'elle l'interroge pour le forcer à se mettre à table, qu'elle... « Stop ! Tu n'es plus flic !» lui cria la voix dans sa tête. C'était vrai. Mener une enquête était bien plus difficile sans sa carte de police. Impossible de le convoquer au commissariat ou de lancer une perquisition de son logement. Mais à défaut de la force, elle pouvait utiliser la ruse et trouver un moyen d'entrer en contact avec lui et de gagner sa confiance. Lequel ? Le visage balayé par le vent, Madeleine suivit la voiture sur l'avenue Victor Hugo et s'arrêta avec elle à un feu rouge. Le café Fanfan n'était plus qu'à une vingtaine de mètres. « Trouve quelque chose, maintenant !» Lorsque le feu passa au vert, elle accéléra pour se porter à la hauteur de la Panamera. « Tu ne vas pas risquer de te rompre les os, quand même !» Mais une force la poussait en avant. « Ne bousille pas ta belle moto !» Tandis que la Porsche ralentissait, Madeleine lui coupa la trajectoire, freinant brusquement pour bloquer sa roue arrière. Le pare-choc percuta la moto au moment où celle-ci se couchait. Madeleine fut éjectée de la Triomphe qui glissa sur le bitume et finit sa course contre un lampadaire. La jeune femme roula sur le goudron. Son crâne heurta le sol, mais il était bien protégé par son casque intégral et le choc fut atténué par la faible vitesse au moment de l'impact. Les roues de la Panamera crissèrent, abandonnant un peu de gomme sur l'asphalte et s'arrêtèrent net. Affolé, Georges sortit de son monstre d'acier pour se précipiter vers Madeleine. « Je suis désolé, vous m'avez coupé la route !» Madeleine constata l'étendue des dégâts. Son blouson était râpé, son jean déchiré, ses mains et ses avant-bras écorchés, mais ce n'était pas plus grave que ça. « Je vais appeler une ambulance !» fit Georges en activant son portable. « Je crois que ce ne sera pas nécessaire » assura-t-elle en retirant son casque. Elle ébouriffa ses cheveux et lui offrit son plus beau sourire. Une lueur de désir s'alluma dans l'œil de Georges, la flamme du chasseur. En acceptant la main qu'il lui tendait pour l'aider à se relever, Madeleine comprit qu'elle était parvenue à glisser un pied dans la porte. C'était la phase numéro 1, infiltrer l'ennemi. San Francisco. Jonathan cliqua sur le dernier fichier. La photo s'ouvrit en plein écran. C'était la copie de l'affichette placardée à des milliers d'exemplaires aux quatre coins du Royaume-Uni pour signaler la disparition d'Alice Dixon. Au centre de la page, la photo d'une gamine d'une quinzaine d'années, aux cheveux blonds et raides, au sourire abîmé et au visage très pâle parsemé de taches de rousseur. On avait choisi ce cliché parce que l'adolescente y portait le sweatshirt dont elle était vêtue le jour de son enlèvement. Un pull molletonné à capuche, rose et gris, de la marque Abercrombie & Fitch. Un sweat trop grand pour elle, qu'elle avait personnalisé en cousant un écusson de l'équipe de foot de Manchester United. Parmi les différents documents du dossier Dixon, Jonathan s'était surtout concentré sur les notes personnelles de Madeline et les pièces officielles de l'enquête. C'était le premier portrait d'Alice qu'il prenait vraiment le temps d'observer. Dès que la photo apparut sur l'écran, son cœur tressauta dans sa poitrine. Une vague de malaise l'envahit. Puis, son regard rencontra celui d'Alice et son ventre se noua. Il connaissait cette fille. Il l'avait déjà croisée. Il lui avait déjà parlé. Terrassé par l'angoisse, il referma précipitamment son ordinateur. Son rythme cardiaque s'était emballé, ses mains tremblaient. Il respira profondément pour retrouver son calme, mais rien n'y fit. Le souvenir d'une rencontre qui avait laissé dans son esprit une cicatrice indélébile remonta à la surface avec force. Il essaya de le repousser, mais son corps fut parcouru par un frisson glacial, comme s'il se dissolvait sous l'effet de la peur. Il fallait qu'il en ait le cœur net.